Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Auditeur de Tranche de vie, je me trouve aujourd'hui à Saint-Junien, une petite ville du Limousin, de la Haute-Vienne, et dans un lieu convivial, chaleureux, peut-être un peu presque utopique, pourrions-nous dire, mais on verra quelles sont les limites de cette utopie. Et dans cet endroit, on distribue, on partage, on crée, on mouline de la culture sous toutes ses formes et sans exclusive. Tout à l'heure, en arrivant dans cet endroit, dont je crois qu'il a été un ancien abattoir, j'ai pris la plaquette décrivant le programme de l'été, et voici ce qu'on y lit. Ici, à la Mégisserie, l'été est plein de musique, d'oiseaux et de trompettes. Ici, en été, il y a du folk, un vigrenier, des chanteurs, des joueurs de saxophone et des rêveurs. Ici, l'été, on s'amuse, on réfléchit, on essaie des choses, on apprend, on boit des coups, on est un peu plus ensemble. Ici, en été, on n'oublie pas que la culture file un mauvais coton, et pas qu'elle, que des théâtres ferment, que des artistes abandonnent, que notre président de la République économise, comme beaucoup d'autres qui veulent sa place, sur le dos des pauvres, des mairies, de la culture, et pas que, et que les vraiment riches passent l'été à Panama, dans ce beau paradis de l'évasion fiscale. À la tête de cet endroit, Olivier Cookberg, un homme encore jeune, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Olivier, bonjour. Merci de nous avoir reçus pour Radio Libre en Périgord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire de cet endroit que vous dirigez ?
Merci d'être venu de Dordogne. Tout d'abord. Et donc ce lieu c'est qui s'appelle la Mégisserie est en hommage aux usines qu'il y a et qu'il y avait à Saint-Junien. Donc les Mégisseries sont des tanneries de petites peaux et donc il y avait beaucoup de Mégisseries à Saint-Junien et le métier de mégissier était, je dirais, un métier très, très difficile, hein, puisque les hommes qui le faisaient, puisque c'était principalement des hommes, avaient les pieds dans l'eau ou dans d'autres matières très, très odorantes pendant une bonne partie de leur journée. Et voilà, c'est pour leur rendre hommage à ces mégissiers que ce théâtre s'appelle la Mégisserie. Mais aussi, cette mégisserie est implantée à l'endroit où il y avait l'abattoir de Saint-Junien. Donc, et le théâtre a été construit autour de cet abattoir, donc, qui a été construit à la fin du 19e siècle. Donc la structure de l'abattoir est restée, vous avez pu le découvrir, et c'est devenu donc notre lieu d'exposition, mais aussi un lieu où on le transforme, où on fait des spectacles, où on fait des cabarets, puisque on a un bar qui est juste à côté et qui nous permet de pouvoir faire aussi ce genre de spectacle.
Alors autour de ce qui reste de ce bâtiment de l'abattoir, vous avez agrégé toutes sortes de prolongements qui sont destinés à vos différentes missions.
Donc autour de cet abattoir, il y a tout un théâtre qui a été construit en 2005. Et ça a été vraiment une volonté de la communauté de communes qui s'appelait Vienne-Glan à cette époque-là et qui maintenant s'appelle Porte-Océane du Limousin, donc, puisque la communauté de communes autour de Saint-Junien, Oradour, Saint-Victurnien, mariée avec la communauté qui s'appelait la communauté de la Météorite de Rochechouart. Donc, ce qui fait que maintenant, depuis le 1er janvier 2016, Elle s'appelle Porte Océane du Limousin et elle regroupe à peu près 27 000 personnes, donc pour un territoire qui maintenant est vraiment très grand puisqu'il va de Videx en Haute-Charente, dans les lacs de Haute-Charente, comme on appelle, jusqu'à Radour-sur-Glane et Saint-Victurnien pour les communes les plus proches de Limoges.
Donc cette nouvelle région, dans le cadre de la réorganisation régionale, elle est à cheval sur les deux départements de la Charente et de la Haute-Vienne.
Alors cette nouvelle communauté de communes est que sur la Haute-Vienne, mais elle est vraiment limitrophe avec effectivement la Charente, puisque ici on est à 1,5 km, Saint-Junien est à 1,5 km ou 2 km, je crois, de la Charente. Et quand on va au plus loin, je dirais, de notre communauté de communes, on n'est pas très loin non plus de la Dordogne. Voilà, donc on est entre trois départements. Et dans cette nouvelle région assez immense comme un pays.
Est-ce que la mégisserie est à un statut particulier? Il me semble avoir lu qu'elle était considérée comme une scène conventionnée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une scène conventionnée?
Alors, elle a plusieurs particularités, la mégisserie. D'abord, c'est un théâtre et c'est un cinéma. Puisqu'il y a la mégisserie ici, donc autour de l'abattoir, avec donc la salle où nous sommes, par exemple, qui est une petite qu'on appelle le salon de musique. Il y a un lieu de répétition qui est grand comme notre scène, un théâtre de 350 places. On a beaucoup d'autres endroits qui nous permettent juste de pouvoir accueillir très souvent des artistes en résidence, en répétition, mais aussi des associations, des écoles à qui nous prêtons volontiers les lieux. Et puis le Cinébourse qui est au centre de la ville et qui est, un cinéma historique aussi, puisqu'il est donc il était construit en 1926 et c'est les ouvriers de Saint-Junien qui l'ont construit pour eux, puisque c'était la CGT qui a construit ce cinéma. Et voilà, donc c'est une entité en fait, nous sommes un établissement public, c'est aussi une particularité de cet établissement. Et en même temps, donc, nous sommes une scène conventionnée maintenant depuis 2014. Donc une scène conventionnée, ça veut dire que le travail du lieu est reconnu par l'État, par la région, le département et la communauté de communes, qui est notre principal financeur, et qui donc reconnaît le travail de cet établissement. Et c'est une convention qui dure 3 ans. Voilà, donc nous sommes conventionnés pour les arts, les imaginaires et l'éducation populaire.
Si je comprends bien, vous avez un ancrage territorial qui s'exprimera par exemple à travers l'histoire du Cinébourse et qui donc est fortement ancré dans le contexte historique de la ville de Saint-Junien. Et en même temps, beaucoup plus récemment, vous avez acquis une espèce de reconnaissance nationale qui sans doute vous a valu des moyens supplémentaires, j'imagine.
Donc ça nous a valu des moyens supplémentaires, je dirais un peu, puisque la période n'est pas obligatoirement propice pour avoir des moyens supplémentaires à niveau culturel. Comme vous l'aviez lu au début de notre entretien, la culture, comme d'autres secteurs, comme le social, comme les aides, aussi par exemple
pour les associations aussi.
Les associations sont en forte diminution. Donc nous, notre budget a effectivement un peu augmenté, et ce qui est déjà très bien.
Alors, il y a une chose qui m'a toujours frappé lorsque je suis venu assister à des spectacles chez vous, c'est la participation du public. Comment est-ce que vous êtes parvenu à attirer le public et à créer cette espèce d'osmose qui paraît exister entre le public de Saint-Junien et puis les activités diverses de la mégisserie?
Justement, si on est devenu quelque part aussi cette scène conventionnée, c'est par rapport à tout le travail d'éducation populaire qu'on peut faire, et de dire tout simplement, il y a On a fait longtemps, depuis une cinquantaine d'années, une séparation entre le travail artistique et le travail social, par exemple, entre le travail professionnel artistique et les amateurs. Donc c'est de se dire simplement que c'est très simple, enfin voilà, de travailler ensemble et qu'en respectant chaque personne, que ce soit le côté professionnel, le côté amateur. Donc ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, c'est on a vraiment voulu faire de ce théâtre une maison commune. Donc une maison qui soit ouverte. Donc le théâtre est ouvert pendant les 12 mois de l'année, pendant les vacances. Voyez, vous venez nous voir pendant les vacances. Et c'est vraiment une volonté parce que je crois qu'à Saint-Julien, mais aussi dans beaucoup d'autres endroits en France, plus de 60% de la population ne part pas à l'extérieur pour prendre ses vacances. Donc c'est normal que nous soyons ouverts pendant cette période-là pour que tout le monde puisse venir. Voir, écouter, réfléchir, s'amuser, rigoler avec, par exemple, l'exposition que nous présentons. Et puis, c'est un lieu ouvert. On prête beaucoup cet endroit. Hein. Donc, on a une programmation qu'on fait toute l'année, comme vous avez pu le voir. Mais en même temps, on prête le théâtre, les salles de répétition, les salles de réunion à beaucoup d'associations, à des écoles, à des gens qui veulent, qui soient amateurs ou professionnels, qui veulent venir répéter dans nos murs. Là, on a comptabilisé, puisqu'on est un peu dans l'heure des bilans pour 2015, par exemple, le théâtre, on a prêté, je crois, 168 fois, enfin, donc, quelle que soit la salle, hein, on l'a prêté 168 fois l'année dernière, hein, en 2015, donc pour des réunions, pour des répétitions, pour le grand théâtre, pour des associations humanitaires ou pour des écoles, etc. Voilà. Donc ça fait que, au fur et à mesure, ce théâtre n'est pas en dehors de la vie. Hein. C'est pas, voilà, il participe à la vie. La culture participe à la vie. Elle est un peu comme un journal qui participe à la vie et qui donne aussi des partis pris, des analyses aux gens qui viennent découvrir les choses qui se passent ici. Voilà. Donc ça, on essaye de s'inclure, je dirais, dans cette vie et de montrer que l'art participe largement à la vie, dévoile un certain nombre de choses, critique aussi ce qui peut se passer dans cette société. Et puis on fait beaucoup de projets collectifs. Donc là, par exemple, au 14 juillet, c'est pour la première fois cette année, on a fait un vide-grenier artistique avec une dizaine d'associations, dont le Secours Populaire, la Ressourcerie, des associations qui travaillent pour un dispensaire en Afrique, des associations qui travaillent pour soutenir pour qu'il y ait des lieux pour les enfants autistes, etc. On a travaillé avec eux pour fonder ce vide-grenier où il y avait des petits concerts, où il y avait tout ce qui était proposé aussi était au bénéfice de ces associations, et où il y avait donc un vide-grenier avec des particuliers, où il y a eu un public, je dirais, habituel au vide-grenier, il y avait un public plus habitué peut-être à venir au théâtre, où il y avait, voilà, et où il y a eu plein de gens, puisqu'il y a eu à peu près 2500 personnes qui sont venues dans cette journée du 14 juillet. Donc voilà, c'est essayer de faire les choses simplement, et avec les gens concernés. Donc là on l'a fait avec ces 10 associations, et à la fin de ce 14 juillet, il y avait une création qui s'appelle « Je chante, tu chantes, nous en chantons » et que vous avez pu découvrir vous-même, et qui est donc là un atelier chanson et musique que nous avons lancé maintenant, ça fait presque 2 ans, avec Jean-Pierre Sévos, hein, puisque ce sont des projets qui mettent beaucoup de temps à se faire, et où on a proposé aux gens d'ici de raconter leur vie en chanson et en musique. Et donc pendant 2 ans, ils ont travaillé. Il y a une centaine de personnes qui ont participé à ces ateliers. Et puis, donc la création a eu lieu au mois de mars. Ça a été un très grand succès et qu'on a repris donc pour ce 14 juillet. Donc c'est, je dirais, tous ces éléments qui font qu'au fur et à mesure, on touche modestement, je dirais, différentes parties de la population, et que ce lieu devient le lieu de tous.
Parce que vous associez systématiquement le public, toutes les fois que vous en avez la possibilité, à cette activité, dans le but, comme vous l'avez évoqué rapidement, dans le but d'apprendre aux gens à penser par eux-mêmes. Là, on rejoint un petit peu Brecht dans Arthur Ovi, apprenez à voir au lieu de regarder bêtement.
Mais aussi dans un rapport qui est égalitaire. C'est le vivre. On apprend des autres. Moi, j'apprends des personnes qui viennent ici et par exemple, on a fait au début, ça fait maintenant 4 ans, on a préparé pendant un an et demi une exposition qui s'appelait Saint-Julien-la-Rouge et qui était une exposition sur les années 50. Et donc ici, où on a montré, donc avec une soixantaine de personnes, un peu comment cette ville, dans les années 50, était, je dirais, à l'avant-garde des coopératives. La moitié de l'économie appartenait aux coopératives, par exemple. Et donc voilà, et donc on a travaillé avec toutes ces personnes qui, là, nous ont appris énormément de choses. Comme, par exemple, Je chante, tu chantes, nous en chantons. Ce sont les personnes qui ont participé, qui ont écrit les textes et qui nous apprenaient énormément de choses. Sur ce qui se passe ici, sur ce qu'elles peuvent penser d'ici, comment elles s'engagent dans la vie, etc. Donc c'est vraiment dans un rapport comme ça de transmission, mais la transmission, elle se fait dans les deux sens.
Oui, ce dont vous venez de parler, c'est une suite, on peut dire, de cet ancrage du communisme dans cette région limousine qui remonte presque aux années 20, puisqu'on a pu parler de communisme agraire, et qui, évidemment, a connu ses plus grandes heures, effectivement, à la suite de la Seconde Guerre mondiale.
C'est un communisme aussi qui est industriel, et de petites fabriques aussi, puisque les ganteries, vous aviez 2, 10 ou 50 salariés ou compagnons, ou coopérateurs, puisqu'il y avait des coopératives gantières, comme il y avait une coopérative de mugisserie, il y avait une coopérative aussi de sacs en papier, il y avait les épiceries étaient coopératives ici, enfin voilà. Donc, et effectivement, c'est comment rester dans l'esprit de beaucoup de gens. Et c'est aussi, dans l'exposition de, par exemple, Saint-Julien-la-Rouge, c'est pour rendre hommage à cela et de dire que c'est important, que c'était important une période, mais que c'est tout aussi important maintenant de faire des choses collectivement et ensemble, et de ne pas se dissocier, mais d'être vraiment ensemble. Voilà ce qu'on essaie de faire à longueur de journée. Mais en même temps, c'est un lieu artistique. Donc ça veut dire qu'il y a des paroles particulières qui viennent ici et que ces paroles particulières ne sont pas obligées d'être consensuelles. Donc c'est il y a ces différentes choses qui sont ici.
Alors justement, quand on regarde votre programmation, je regardais encore il y a quelques jours la magnifique plaquette que vous avez éditée là, pour présenter votre programme 2015-2016. On voit que sont convoqués les Amérindiens, Pivot, Catherine Dolto, Donizetti, les frères Grimm, Marco Polo, Marivaux, Naomi Klein, la culture des townships d'Afrique du Sud, la chanson française avec Je chante, tu chantes, nous en chantons, Edward Curtis, le grand photographe américain, Buchner, et puis la danse dans tous ses états. Alors, est-ce que vous ne risquez pas de tomber de ce fait sous l'accusation de relativisme culturel en disant ben voilà, tout se vaut et on va tout présenter?
Alors relativisme culturel, j'aime bien. Et moi je prendrais la comparaison.
C'est une expression qui n'est pas de moi, mais qui a été employée par certains responsables politiques que je ne nommerai pas.
Donc, on pourrait parler de la gravité culturelle, alors si on parle de relativisme, mais moi je comparerais ça à une bibliothèque. Et quand vous allez dans une bibliothèque, vous avez accès normalement à toute la littérature, aux sciences, donc dans sa très grande diversité. Et je crois qu'un lieu culturel doit pouvoir accueillir la diversité des paroles, comme vous avez dans une bibliothèque la diversité des pensées. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc avec donc aussi une pensée commune dans cette programmation, avec des thèmes qui ressurgissent. Donc par exemple, on fait des programmations autour de l'écologie et de la politique, donc avec un certain nombre de choses qui se retrouvent dans l'écologie artistique et politique. Et donc avec par exemple l'année prochaine, on va inviter Christophe Alévèque avec son spectacle le Tour de la dette en 80 minutes. On va inviter Signem Aslam, donc qui est une chanteuse grecque, turque et kurde en même temps. Donc voilà, pour parler. Donc et ces spectacles vont être en résonance aussi avec des débats qui auront lieu. Donc par exemple, il y aura un économiste qui va intervenir avec Christophe Alévèque dans la deuxième partie de son spectacle. Voilà, pour raconter un peu ce qui se passe dans notre monde. Il y aura donc cette vision artistique, après une vision plus économique et plus et plus politique. Et puis pour la chanteuse turque, grecque et kurde, donc c'est de la même manière, on va essayer de parler de la situation de la Turquie et de la situation de la Grèce actuelle. Voilà, c'est de montrer la diversité des paroles artistiques et de montrer qu'elles ne sont pas détachées du monde, qu'elles le révèlent souvent, qu'elles le subliment fréquemment. Donc c'est un peu, je dirais, ces différentes ponctuations, c'est de montrer aussi comment le... On va faire une programmation l'année prochaine qui s'appelle « Nous sommes tous des étrangers », et où justement, on veut présenter que mes étrangers, mes ancêtres étaient autrichiens par exemple. On sait que 40 à 50% de la population française, si on remonte à la quatrième génération, ou à des origines italiennes, ou polonaises, ou espagnoles, ou portugaises, ou algériennes, ou marocaines, etc. Voilà. Donc, et puis, si on remonte encore plus loin, on sait qu'avec au moment des hommes préhistoriques, on vient ou d'Asie ou d'Afrique. Et si on remonte encore plus loin, puisque là on parlait de la communauté de communes qui est notre voisine, la météorite, il y a une météorite énorme qui est tombée, ça fait 250 millions d'années, et les scientifiques, il y a eu une conférence ici, des plus hauts scientifiques qui s'intéressent justement à tous ces objets qui viennent d'autre part que la Terre, disent que la vie est née grâce à tous ces apports extraterrestres. Donc voilà, donc on peut dire qu'on est vraiment des étrangers qui venons des étoiles.
Alors oui, effectivement, le grand mélange n'est pas une menace pour l'avenir puisqu'il a toujours fonctionné. Mais quand même, quand vous faites votre programmation, ça demande une certaine audace. Moi, j'ai écouté chez vous un chanteur breton accompagné par un joueur de oud iranien. Est-ce que ça n'ébouriffe pas quelques personnes ?
Je ne sais pas, il y a vraiment une volonté d'éclectisme, je dirais, et de s'intéresser un peu moi j'aimais bien le mot humaniste, et c'est dans le sens où on s'intéresse aux êtres humains, mais l'humanisme au XVIe siècle, c'était quelque part des encyclopédistes, et c'était des gens qui s'intéressaient à tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça.
Et en particulier des cultures qui n'étaient pas la leur, qu'ils retrouvaient à travers les textes des Grecs. Matériellement, pratiquement, comment est-ce que vous fonctionnez ? Est-ce que vous avez une équipe ? Est-ce que vous avez des gens qui ont des tâches spécialisées ? Est-ce que vous avez des bénévoles qui travaillent avec vous dans ce lieu magnifique et si divers ?
Donc, il y a 12 personnes qui travaillent avec nous, et donc 3 personnes qui travaillent au cinéma et 9 personnes au sein du théâtre de la Mégisterie. Donc il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent et qui viennent avec nous sur les différentes opérations. Donc par exemple, pour Vive la fin du monde, qui est notre programmation écologique, artistique et politique. Donc là, il y a beaucoup de bénévoles, d'associations qui travaillent avec nous, comment que ce soit des associations qui travaillent par exemple comme Terre de Liens, qui travaillent pour acquérir collectivement des terres pour que des jeunes paysans puissent s'installer, et entre autres en bio. Des gens comme Enercop qui proposent d'avoir une énergie qui soit autre que celle que nucléaire, par exemple. Il y a donc par exemple pour, on vient d'en parler pour la fraternelle, là aussi il y avait beaucoup de gens qui ont participé. Il y a une équipe professionnelle, et puis beaucoup de gens qui viennent pendant l'année travailler avec nous, hein. Et donc alors aussi c'était notre équipe aussi tourne, comme on le dit, puisqu'en fait comme on est ouvert pendant les vacances, ça veut dire aussi que un certain nombre de personnes partent en vacances, qu'elles sont remplacées, donc on a un budget aussi qui nous permet de faire ça, hein, qu'elles puissent s'en remplacer pendant un ou deux mois, donc pendant cette période là pour que justement on puisse aussi se reposer tout en restant ouvert.
Et vous avez la possibilité aussi, j'ai lu, d'accueillir quelques artistes en résidence. Tout à l'heure, vous parliez de Jean-Pierre Sevaux. Alors, vous faites une distinction entre les artistes de grande lenteur qui restent longtemps et puis ceux qui passent.
Alors, on a proposé de ces artistes de grande lenteur qui sont donc maintenant, puisque ça va faire 5 ans que je suis ici. Pour certains, ils viennent depuis 5 ans régulièrement. Proposer leur création, proposer aussi de faire des créations avec les gens d'ici, travailler sur, je dirais, sur différentes choses. De grande lenteur, c'est justement, comme son nom l'indique, se prendre du temps, hein, pour sentir les choses,
s'imprégner du lieu, du public,
donc aussi considérer que les artistes ne sont pas obligatoirement des personnes extraterrestres, je dirais, hein, mais que l'artiste devient une sorte de voisin, hein, et que juste, même quand il propose des choses très particulières, hein, on peut le rencontrer et puis effectivement discuter avec lui de pensées ou des discussions qu'on n'aurait pas eues habituellement. Donc ces artistes sont accueillis de manière très très diverse, hein, mais justement sur cette lenteur, la différence. Parfois dans des théâtres, mais souvent pour des raisons économiques, les artistes viennent l'après-midi et repartent le soir même. Hein, donc voilà, c'est pour... C'est très triste. Enfin, moi, je trouve un théâtre qui est fermé et qui est fermé presque même quand la représentation vient de se terminer. Hein. Donc là, par exemple, on fait aussi des pots. Enfin, systématiquement, c'est pas souvent des pots après le spectacle. À notre bar pour qu'on se retrouve, quoi, et puis qu'on discute, ça fait partie
C'est ce qu'annonçait votre programme d'été d'une manière très sympathique. Olivier, le temps file à toute vitesse et malheureusement nous n'avons pas parlé de vous. Alors est-ce qu'il y a une vie après la magistrie pour vous? À quoi la consacrez-vous?
À quoi je la consacre? À prendre des vacances, être avec mes enfants, puisque j'ai 3 enfants, et donc d'être avec ma femme, donc qui est aussi la particularité d'être étrangère, hein, d'être danoise, et on part au Danemark bientôt ensemble.
Tant mieux, vous me rassurez, parce que je me demandais à quel moment vous pouviez rencontrer votre famille. J'imagine que vous n'avez pas d'autre passion que la mégisserie. Ça m'étonnerait que vous soyez collectionneur de timbres. Ou...
Quelle passion? J'aime bien la nature. La beauté du monde. Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire de se lever le matin, de voir les lumières, de se coucher le soir et de voir aussi les lumières du soir qui sont différentes. Au Danemark, on a la possibilité de pouvoir se promener facilement en vélo, partout, dans les forêts, dans les choses comme ça, et c'est merveilleux, quoi. Enfin, mais dans le Limousin, vous vous promenez du lac de Saint-Pardoux, par exemple, ou de Bessines, ou dans différents endroits, enfin dans les lacs de Haute-Charente. Ouais, il y a plein de beautés à prendre dans la journée. Là, il y avait des ostensions à Saint-Junien, donc la ville a été décorée d'une manière incroyable. Bon, voilà, les ostensions, c'est un moment où il y a plein de gens qui construisent des choses, qui décorent. Voilà, c'est autre chose.
C'est un des paradoxes du Limousin, c'est-à-dire cette coexistence de la vieille foi et puis ces tendances un peu révolutionnaires qui ont subsisté à travers les vicissitudes de l'histoire. Olivier Coquberg, merci beaucoup de nous avoir accueillis, d'avoir répondu à nos questions, et bonne chance pour la Mégisserie.
Merci à vous et bonne chance aussi pour votre radio.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va
et rivant. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.